toutes et tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui viennent pour la première fois. Une précision pratique pour les personnes notamment qui ne sont pas francophones nativement, il y a des versions en anglais, en espagnol, en arménien qui sont disponibles à l'arrière. Je vous ai la réflexion qu'il faudrait qu'on mette des petits QR codes là, comme ça au début du culte, on peut aussi les avoir sur les téléphones. Ce sera pour la prochaine fois. Dominique l'a dit, c'est la rentrée aujourd'hui pour les explorateurs, les mini-explorateurs de la Bible. Moi, ma rentrée, c'était lundi, j'ai repris le travail. Et quand on reprend le travail, je ne sais pas comment c'est chez vous, dans votre entreprise, là où vous travaillez, mais souvent, on va voir les collègues, on se dit « alors, comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu étais ?» etc. Il y a toujours ce petit rituel de retour de vacances. Et cette année, je trouvais que c'était un peu particulier, il y avait un sujet qui revenait dans toutes les conversations. À Travis, c'était quoi? C'était les vagues de chaleur. Les vagues de chaleur de cet été. Ça m'a vraiment frappé. Il y avait une forme de sidération chez les personnes avec qui je parlais, de constater à quel point le climat a été déréglé et de pouvoir l'expérimenter de cette manière-là. Il y avait de la peur. Les gens ont exprimé de la peur, de l'angoisse par rapport à l'avenir. C'est la première fois que j'avais ce petit rituel de rentrée avec, j'en retirais vraiment un sentiment de désespoir assez important. C'est une chose d'être confronté à des nouvelles, alarmantes, les feux, les tornades, etc. Mais c'est une chose encore différente de les expérimenter comme on l'a fait cet été. Alors ça, c'est une expérience qu'on a vécue collectivement à l'échelle de tout notre pays. Mais le plus souvent, des situations difficiles, des situations qui peuvent nous mettre dans l'angoisse, on les vit de manière plus individuelle dans nos vies, dans notre couple, dans nos familles. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, le fil rouge de cette prédication, après l'encouragement, c'est celui de l'espoir, de l'espérance. En 587, avant la naissance de Jésus, dans la ville de Jérusalem, un homme a vécu une situation de désespoir profond, de désespoir collectif et individuel. Sur le plan collectif, le peuple de cet homme était sur le point d'être complètement vaincu, conquis. Sur le plan individuel, cet homme était privé de liberté. Il avait été mis en détention. Cet homme, qui a environ 55 ans, j'ai entendu quelqu'un dire le prénom là, il s'appelle Jérémie. Jérémie est un prophète qui a été appelé par Dieu dès son adolescence. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu, qui transmet les messages de Dieu au peuple. Le peuple, ici, c'est le royaume juif de Juda. Ce peuple, il vit les pires heures de son histoire. Au moment de notre récit, qu'on va lire après, tout le peuple s'est réfugié dans la ville de Jérusalem. Presque tout le peuple s'est réfugié dans la ville. Et la ville est entourée par une immense armée. L'armée du plus grand empire de l'époque, Babylone. L'empereur a décidé d'en finir une fois pour toutes avec ce peuple juif rebelle. Il n'y a pas d'issue envisageable, pas de négociation comme les dernières fois. Jérémie, pour ceux d'entre vous qui ont déjà lu un peu le livre qu'il écrit et qui connaissent un peu sa vie, il a passé toute sa vie à avertir, à mettre en garde, à essayer de secouer ses contemporains pour leur dire « réveillez-vous, une catastrophe arrive ». Une catastrophe qui est permise par Dieu en raison de l'infidélité du peuple. Franchement, personne n'avait envie d'entendre Jérémie. Les gens voulaient plutôt le faire mourir, le mettre en prison, le mettre au fond d'une citerne. Le roi n'en pouvait plus d'entendre ses discours défaitistes et il a décidé de l'arrêter. Un royaume qui est ravagé par l'armée adverse, une ville qui est sur le point de s'effondrer ou d'être conquise. Jérémie qui a perdu sa liberté et un peuple qui va connaître le traumatisme de la déportation. Pas étonnant que, si on peut afficher la première diapo. Ouais, hop, pardon. Voilà, ça va pas fort là chez Jérémie, hein. C'est Rembrandt qui dessine, qui imagine la façon dont Jérémie était préoccupé, était soucieux à l'époque de la quasi-destruction imminente, de la destruction imminente de Jérusalem. Un contexte totalement désespéré dans lequel Jérémie va faire quelque chose de totalement fou. Il va acheter un champ. Il va acheter un champ. Un contexte où l'espoir a complètement disparu, Jérémie va planter une graine d'espérance. Et ce matin, on va regarder de plus près cette graine d'espérance en nous posant deux questions. La première, qu'est-ce que ça veut dire espérer ? Qu'est-ce que ça veut dire espérer dans les difficultés ? Et la deuxième question, qu'est-ce qui nous permet d'espérer ? Dit autrement, sur quoi repose notre espérance ? Et Jérémie va nous guider pour répondre à ces deux questions. Le récit qu'on va lire, il se trouve dans la Bible, dans le livre de Jérémie, au chapitre 32. On va en lire pas la totalité, mais un certain nombre d'extraits. Voilà, c'était juste une petite illustration pour imaginer à quoi pouvait ressembler ce champ que Jérémie a acheté avec des oliviers, avec peut-être des céréales. Jérémie, chapitre 32. Le verset 2 redonne un peu le contexte que je vous ai expliqué déjà. C'était au moment où l'armée du roi de Babylone assiégeait Jérusalem et où le prophète Jérémie était enfermé dans la cour du corps de garde qui se trouve au palais du roi de Juda. Un peu plus tard, Jérémie dit « L'Éternel m'a adressé la parole en ces termes. Anaméel, le fils de ton oncle Shalum, va venir te voir pour te proposer d'acheter son champ situé à Anatot, car en vertu du droit de rachat, c'est à toi de l'acquérir. Effectivement, mon cousin Anaméel vint me trouver dans la cour du corps de garde, comme l'Éternel me l'avait annoncé. Et il me dit, achète, s'il te plaît, le champ que je possède à Anatot, dans le territoire de Benjamin, car par la loi d'héritage, tu as, en vertu du droit de rachat, priorité pour l'acquérir. Achète-le donc pour toi. Alors je sus que l'Éternel m'avait bien parlé. J'achetai donc à mon cousin Anaméel le champ qui se trouve à Anatot et je lui en payai le prix de 17 pièces d'argent. Je rédigeai l'acte de vente, j'y mis mon sceau, en présence des témoins que j'avais convoqués, puis je pesai l'argent sur une balance. Ensuite, je pris l'acte de vente qui était scellé, où figuraient les stipulations et les clauses de la transaction, ainsi que l'exemplaire qui était ouvert, et je remis l'acte de vente à Baruch, fils de Neria, fils de Masséia, en présence de mon cousin Anaméel, des témoins qui avaient signé l'acte, sous les yeux de tous les Judéens qui étaient assis dans la cour du corps de garde. Puis j'ordonnai à Baruch, en présence de tous, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Prends ces documents, l'acte de vente qui est scellé et celui qui est ouvert, et dépose-les dans un vase de terre cuite pour qu'ils se conservent longtemps. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. » Une situation de quasi-fin du monde pour le peuple juif. On s'attendrait quand même à tout, plutôt que d'avoir la description détaillée d'une transaction immobilière. Alors j'imagine que le banquier spécialiste de transactions immobilières doit être un des passages préférés, n'est-ce pas Dominique ? Et voilà, là on a vraiment le détail, on nous explique comment ça se passe, il faut sceller, il faut conserver, il y a des exemplaires, etc. Alors qu'en fait c'est un acte complètement déraisonnable. Le champ en question est situé en dehors, à peu près à une dizaine de kilomètres de Jérusalem. Donc le champ est déjà dans la zone occupée par l'armée babylonienne. Il est peut-être ravagé. La valeur de ce champ, elle est quasi nulle. Jérémie sait certainement qu'il ne verra jamais ce champ, qu'il ne pourra jamais aller cueillir les olives ou récolter les céréales. Mais à la demande de Dieu, Jérémie achète ce champ et il respecte tout ce qui est prévu pour que ce soit officiel, bien enregistré, que ce soit gardé longtemps dans une jarre en terre cuite. Par cet acte, Jérémie parle aussi fort, sinon plus que par sa parole. Il a déjà accompli des actions symboliques dans sa carrière. Mais cette fois-ci, dans cette situation de désespoir absolu, le message est extrêmement fort. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. On achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. Première question que je vous propose, c'était qu'est-ce que ça veut dire espérer ? Et notamment, qu'est-ce que ça veut dire espérer au milieu des difficultés ? À la lumière de ce passage, je vous propose trois éléments. Espérer, c'est premièrement affirmer que la situation qu'on traverse, ce n'est pas la fin de l'histoire. Espérer, deuxièmement, pour autant, ce n'est pas nier la difficulté de la situation qu'on traverse. Et enfin, troisièmement, espérer, ça se manifeste de manière concrète dans des actions qui nous engagent. Le premier point est essentiel. Espérer, c'est être convaincu que ce qu'on est en train de vivre, une situation qui peut être désespérée, ce n'est pas la fin de l'histoire. Car Dieu a prévu autre chose, Dieu a prévu une suite. Dans le cas de Jérémie, Dieu a prévu que le peuple retournerait à Jérusalem et dans les environs. C'est une réalité que Dieu avait d'ores et déjà décidée, mais qui n'était pas visible. Et en achetant ce champ, Jérémie, il rend visible cette réalité future. Je ne sais pas si vous aimez lire des romans. Moi, je m'y suis remis il y a 2-3 ans. Quand on lit un chapitre, des fois dans les intrigues, on va avoir des intrigues qui peuvent être très sombres, des chapitres, des événements qui arrivent aux protagonistes qui sont extrêmement tristes. Mais parfois, à travers quelques lignes, l'auteur va indiquer que plus tard, dans le fil du récit et de la narration, la situation va changer. Quelques petits indices. Ces chapitres ultérieurs, ils sont déjà écrits, ils sont dans le livre. Mais pour pouvoir les lire, il va falloir attendre, il va falloir patienter, il va falloir qu'on avance dans la lecture. Espérer en tant que chrétien, c'est participer à ce futur de Dieu qui est déjà présent en germe, comme une petite graine, qui commence à grandir, mais qui sera vraiment pleinement manifesté seulement plus tard. Après cet achat, Jérémie entre en discussion avec Dieu dans une prière et Dieu va lui répondre. Et il va lui révéler quelle est la portée réelle de ce qu'il vient de faire, d'acheter ce champ. Dieu veut révéler à Jérémie quel est le chapitre qui attend le peuple juif plus tard. Je vais les rassembler, rassembler toutes les personnes qui auront été dispersées. Je vais les rassembler de toutes les contrées où je les aurai dispersées dans mon indignation, dans ma colère et dans mon grand courroux. Je les ramènerai ici pour les y faire vivre dans la sécurité. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je leur accorderai un cœur et une conduite qui me seront entièrement dévoués afin qu'ils me révèrent toute leur vie durant. Et cela pour leur bien et pour celui de leurs enfants après eux. Je conclurai avec eux une alliance éternelle par laquelle je ne les délaisserai pas, mais leur ferai du bien. Je les amènerai à me révérer de tout leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. Je trouverai ma joie à leur faire du bien. Je les planterai ici, dans ce pays. Oui, je le ferai de tout mon cœur et de toute mon âme. Voilà la réalité splendide que Jérémie annonce avec cette graine qu'est l'achat du terrain de ce champ. Deuxième point, espérer, ce n'est pas pour autant nier la gravité, la douleur ou la tristesse qu'on peut ressentir. Jérémie va vivre la chute de Jérusalem et ça va inspirer pour Jérémie la rédaction d'un poème qui s'appelle « Les Lamentations » qu'on trouve dans la parole de Dieu et où il exprime sa profonde douleur. Sans doute que les promesses qu'on vient de lire, ces promesses de rétablissement ont mis du baume au cœur de Jérémie. Mais lui, en fait, il ne les a jamais vus accomplis. Jérémie va mourir en exil en Égypte. Jusqu'au bout, il partage le sort de son peuple, il est solidaire de la souffrance de son peuple. Et pour autant, Jérémie nous montre un acte d'espoir et d'espérance. Enfin, troisième aspect, espérer, c'est une forme de témoignage. Vous l'avez peut-être remarqué, à plusieurs reprises dans la description de cette vente, on nous parle des témoins. des témoins qui ont été convoqués. Alors c'était sans doute obligatoire hein, pour que l'acte soit valide, mais il parle aussi de tous les autres juifs qui étaient présents dans la cour, des personnes qui ont vu quelque chose de complètement surréaliste se passer sous leurs yeux alors qu'on entendait l'armée autour de la ville. Voilà une transaction immobilière qui a lieu. Mais pour certains des témoins, c'était peut-être ce qu'il fallait pour quitter le désespoir, pour discerner un chemin, une porte de sortie du désespoir qui les environnait. Ce texte nous invite à certes vivre notre espérance intérieurement. Je pense que dans notre cœur, quand on est unis au Seigneur, quand on est disciples de Christ, on a cette espérance. Elle est là, elle nous porte. Mais ici, Jérémie nous invite à non seulement l'avoir dans notre cœur, mais à la mettre en pratique, à poser des actes qui montrent l'espérance qui est en nous. Ça nous engage. On peut se sentir parfois ridicule, et je pense que Jérémie s'est un peu senti ridicule. C'est ce qu'il exprime à la fin de sa prière lorsqu'il dit au verset 24, voilà, il y a la famine, il y a l'épée, il y a la peste, l'ennemi met des terrassements, la ville va être livrée. C'est ce que tu as annoncé, c'est ce qui va vraiment se réaliser. Et au verset 25, mais toi tu me dis, achète-moi un champ à prix d'argent, pars devant des témoins alors que cette ville est en train de tomber aux mains des Chaldéens. Jérémie n'a pas forcément compris toute la portée de son geste. Il a été gêné de devoir accomplir ce... Il a obéi, mais visiblement, il était un peu... il s'est senti un peu bête. Ce qui est certain, c'est qu'espérer dans notre société, espérer pour les raisons qui sont les nôtres et qu'on verra après en répondant à la deuxième question, ça peut nous faire avancer à contre-courant. Pour résumer cette première question, espérer au milieu des difficultés, c'est poser un acte concret d'espérance qui m'engage, qui ne néglige pas la douleur, mais qui affirme que l'adversité, la difficulté, n'est pas la réalité ultime, car Dieu a déjà écrit le prochain chapitre de l'histoire. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait signifier ? Quelle pourrait être les manières de manifester notre espérance. Alors, il y a une parole célèbre qu'on attribue par erreur à Martin Luther qui affirme que si on m'annonçait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Des fois, c'est attribué à Martin Luther King. Je pense que c'est des gens qui ne savent pas qui est Martin Luther. Mais en tout cas, a priori, c'est une phrase qui a plutôt été créée dans les années 30-40 en Allemagne, dans une situation désespérée aussi pour les chrétiens fidèles. Et sans doute que l'auteur de la citation a été un peu influencé par Jérémie. Alors je ne suis pas en train de vous dire que la fin du monde est pour demain et qu'il faut aller planter un pommier dans votre jardin à la fin du culte. Mais sans nous projeter sur la fin du monde, il y a certaines réalités qui donnent un avant-goût de fin du monde. Notamment, tout particulièrement, la réalité de la mort. La mort, c'est pour beaucoup de personnes la fin de leur monde. Dans une société qui est majoritairement matérialiste, la mort, c'est la fin de tout. C'est une source d'angoisse profonde, une source de désarroi. La façon dont la Bible envisage la mort est différente. Certes, la Bible présente la mort comme une anomalie, comme un ennemi. Mais la Bible affirme aussi que la mort physique n'est pas à redouter pour ceux qui sont unis à Jésus. Car Dieu a déjà écrit le chapitre suivant, dans lequel l'âme continue son existence, et un chapitre encore plus lointain, où les corps ressusciteront. Et savoir que ces chapitres ont été écrits, qu'ils sont déjà présents, ça change profondément la manière dont on voit la vie et dont on envisage la mort. Dominique l'a dit ces dernières semaines, deux familles de notre assemblée ont été durement éprouvées par le deuil. Et toute notre Église est solidaire des familles Pépé et Aline. J'ai été frappé par le témoignage de Désiré lors des obsèques d'Ethan. J'ai aussi été marqué par les échanges que j'ai pu avoir avec Myriam et Anselme, par les témoignages qui ont été partagés hier et qu'ils m'ont transmis lors de la cérémonie d'au revoir de Mathias. Dans ces témoignages, on sent la tristesse, on sent la douleur, mais elles sont accompagnées d'un regard, d'une conviction qui est portée par l'espérance. Ce tableau que Myriam a peint témoigne admirablement de cela. La réalité ne s'arrête pas aux apparences. La réalité, c'est ce qui figure sur ce tableau. La réalité aujourd'hui, c'est que Mathias, ce petit bébé, est désormais dans la présence du Seigneur Jésus. La réalité, c'est que Ethan, de la même manière, donne sa main au Seigneur, qu'il est avec lui. Ce tableau, ces témoignages qui ont été donnés devant les membres des familles, Aline et Pépé, devant les amis, devant les connaissances, devant l'Église, elles me font penser à Jérémie qui achète un champ au pire moment pour y planter la graine de l'espérance. Et ma prière, c'est que ce qui a été partagé hier, ce qui a été partagé le vendredi de la semaine précédente, ce soit une source de questionnement, d'étonnement pour toutes les personnes qui, pour la première fois, entendaient parler de l'espérance chrétienne. Une autre grande angoisse de notre temps, après la peur de la mort, une angoisse qui est très présente dans la génération, dans les jeunes générations, elle porte sur le devenir de notre planète. Les activités humaines ont dégradé si profondément les conditions de vie que pour plusieurs jeunes aujourd'hui, fonder une famille, avoir des enfants, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. En tant que chrétien, on comprend, on entend, on partage ces soucis, mais nous savons aussi que nous pouvons faire confiance au Seigneur, qui libérera un jour la création des douleurs dans lesquelles elle se trouve actuellement. Et dans ce contexte, je pense qu'une manière d'acheter un champ, de planter une graine d'espérance pour un jeune couple chrétien, c'est de se lancer dans un projet parental. Alors deux exemples qui vous semblent un peu massifs, un peu complexes, qui vous paraissent peut-être un peu éloignés de vos préoccupations quotidiennes. Mais en fait, nous pouvons toutes et tous, au quotidien, dans notre vie de tous les jours, manifester notre espérance, l'espérance qui s'appuie, comme on va le voir, sur les promesses de Dieu. Ça n'a pas besoin d'être spectaculaire, ça n'a pas besoin d'être forcément visible, c'est toujours mieux si ça l'est, si on peut le partager. Mais il y a beaucoup de manières différentes de manifester notre espérance. Pour essayer de discerner ce qui, dans notre vie, pourrait marquer notre espoir, Dieu nous a équipés de son Saint-Esprit. D'ailleurs, vous savez, Paul utilise un terme pour parler du Saint-Esprit qui est directement lié avec ce qu'on voit ce matin. Il utilise le terme de d'acompte ou d'art. 2 Corinthiens 1, verset 22. C'est Dieu qui nous a marqués de son sceau, comme sa propriété, qui a mis dans notre cœur son esprit comme acompte des biens à venir. Les acomptes, c'est de l'argent qu'on reçoit en avance. Mais la somme réelle, on va la recevoir après. Et c'est exactement ce que dit Paul ici. Comme Jérémie a acheté ce champ qui a annoncé le retour des Juifs à Jérusalem, le Saint-Esprit est là pour nous assurer des biens à venir dans le royaume de Dieu. Je vois l'heure qui avance, j'avais prévu de prendre un petit temps de prière où chacun puisse prier pour que le Seigneur, pour que l'Esprit-Saint lui montre comment marquer l'espérance dans les jours à venir. Je vous propose de faire ça chez vous, aujourd'hui, quand vous rentrerez. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit va vous mettre sur le cœur, mais quoi que ce soit, je pense que c'est important d'accompagner la première question de « qu'est-ce que ça veut dire espérer ?» d'une deuxième, qui est celle des fondements de notre espérance, des raisons d'espérer. Pour ses contemporains, pour les contemporains de Jérémie, ce que faisait Jérémie, c'était complètement déraisonnable. Et pour une partie de nos contemporains, l'espérance chrétienne est déraisonnable également. Je pense que vous avez déjà entendu peut-être des personnes dire que ouais, l'espoir chrétien, c'est une chimère, c'est une illusion, c'est la méthode couée pour se dire que finalement tout va bien aller, pour ne pas se confronter au réel. Mais l'exemple de Jérémie coupe court à ces critiques. L'exemple de Jérémie vient contredire cette vision défaitiste et désabusée. L'espérance de Jérémie avait un fondement solide et sûr. L'espérance de Jérémie avait un fondement unique, c'était Dieu lui-même, et tout particulièrement sa toute-puissance et sa fidélité à ses promesses. Les deux vont ensemble. La toute-puissance de Dieu, Jérémie l'affirme dans sa prière, et Dieu la confirme. Seigneur éternel, c'est toi qui as créé le ciel et la terre par ta grande puissance et en déployant ta force. Pour toi, rien n'est trop extraordinaire. Oui, répond l'Éternel. Oui, je suis l'Éternel, le Dieu de tout être humain. Y a-t-il une chose qui soit trop extraordinaire pour moi ? Voilà des vérités à se rappeler, que Jérémie nous rappelle. Jérémie, il va associer cette puissance de Dieu à la sortie d'Égypte, un événement fondateur pour le peuple juif. Mais il voit une application de la puissance de Dieu bien au-delà. Tu as réalisé des signes extraordinaires et des prodiges en Égypte et jusqu'à aujourd'hui, au milieu d'Israël et de l'humanité. Dieu n'est pas que le Dieu des Juifs, n'est pas que le Dieu de la libération de l'Égypte, c'est le Dieu qui agit pour toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est un fondement extraordinaire pour notre espérance. Cette toute-puissance de Dieu, elle est associée à la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est le deuxième fondement, le deuxième socle de notre espérance. Dieu est fidèle à ses promesses. Il est fidèle à ses promesses de jugement. C'est ce qui explique que la ville de Jérusalem va être conquise, mais il est fidèle à ses promesses de bénédiction. Voici ce que déclare l'Éternel. Comme je fais venir sur ce peuple ce grand malheur, je leur accorderai aussi tous les biens que je leur promets. Dieu est tout-puissant, Dieu est fidèle à ses promesses. C'est sur cette base solide que l'on peut espérer, que l'on peut manifester notre espérance dans notre vie. Jérémie était convaincu de ces deux vérités et par obéissance, il a acheté ce champ à Anatote, dans sa ville de naissance. 800 ans après Jérémie, dans la même ville de Jérusalem, un autre homme a vécu des heures d'angoisse. Lui aussi était assiégé par ceux qui voulaient sa mort, qui rejetaient son message. Jésus de Nazareth, le Messie, notre Seigneur, s'est trouvé dans une situation de profond désespoir la veille de sa mort. Il savait la mort qu'il allait devoir subir, et en même temps il savait que cette mort n'aurait pas le dernier mot. Il savait que son père avait déjà écrit le chapitre suivant de son histoire. Et la veille de mourir, il a donné un tout nouveau sens au traditionnel repas de la Pâque juive, un sens qui à la fois marque la mémoire de sa mort, mais qui annonce aussi sa résurrection, comme une manière d'annoncer par avance, de planter une graine d'espoir dans le cœur de ses disciples, qui n'ont pas forcément comprise, mais qui est bien présente, et dont nous nous rappelons nous aussi chaque mois. Jésus, dans cette dynamique mystérieuse qu'est la Trinité, avait pleinement confiance dans la toute-puissance de son Père pour le libérer de la mort. Jésus savait aussi que son Père allait tenir ses promesses. Les promesses que Dieu a faites à Jérémie et au peuple qu'on a lues, un cœur uni, un chemin droit, une relation renouvelée, une alliance éternelle, toutes ces promesses ont été pleinement accomplies en Jésus-Christ. En quelque sorte, notre espérance, elle n'est jamais aussi certaine, solide et sûre que lorsqu'elle s'appuie sur Jésus-Christ. Et c'est en tant que disciples de Jésus aujourd'hui que nous sommes invités à acheter des champs là où nous vivons, dans nos quartiers, sur nos lieux de travail, et à planter des graines d'espérance. Je vous invite à la prière. Seigneur, toi qui es l'espérance véritable, l'espérance dont le monde entier a besoin. Viens nous rencontrer, nous t'en prions. Viens nous rencontrer dans l'obscurité de nos propres désespoirs et prononce une parole d'espoir à nos cœurs anxieux. Pour que nous puissions attendre avec foi l'accomplissement de tes promesses dans nos vies. Pour que nous puissions retrouver l'espérance dans les temps de difficulté. Pour que nous puissions, à l'image de Jérémie, témoigner de cette espérance autour de nous. Merci Seigneur parce que tu es tout puissant. Merci Seigneur parce que tu es fidèle à tes promesses. Nous faisons cette prière au nom de celui qui est la source de toute espérance. Amen.